géopolitique,
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Depuis juillet 2024, les relations entre la France et l'Algérie n'ont cessé de s'envenimer. C'est la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental qui a mis le feu aux poudres. Une décision perçue comme une provocation par Alger, soutien historique du Front Polisario. La crise diplomatique s'est aggravée mi-novembre avec l'arrestation à l'aéroport d'Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé d'atteinte à l'intégrité nationale. Ces dernières semaines, le ton est encore monté d'un cran entre les deux pays, après le refus de l'Algérie de réadmettre sur son sol un certain nombre de ses ressortissants que la France souhaitait expulser. Paris menace désormais Alger de remettre en cause l'accord bilatéral de 1968, qui régit les conditions de circulation, de séjour et d'emploi des Algériens en France. De son côté, Alger rend Paris responsable de l'escalade et promet une réciprocité stricte et immédiate à chaque refus de visa. Jusqu'où peut aller cette nouvelle crise diplomatique entre l'Algérie et la France ? Le travail mémoriel censé panser les plaies toujours à vif de la colonisation reprendra-t-il un jour ? La coopération sécuritaire est-elle menacée ? L'Algérie va-t-elle chercher à renforcer ses liens avec d'autres puissances en réponse aux tensions avec Paris ? Quels gestes concrets pourraient être faits de chaque côté de la Méditerranée pour ramener un peu de sérénité ? On en débat avec nos invités. Radija Mohsen Finand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb et du monde arabe, chercheur associé au laboratoire CIRIS à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du comité de rédaction d'Orient 21. Emmanuel Alcaraz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, chercheur à Mésopolis, Sciences Po Aix. Vous avez publié en 2024 France-Algérie, de tragédie en espérance chez Goliath Éditions. Et en ligne avec nous, Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Algérie. Vous avez publié en 2024 la bande dessinée Les Algériens en France, une histoire de génération aux éditions La Découverte. Benjamin Stora, en 2020, Emmanuel Macron vous a nommé à la tête d'une commission mixte sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, les relations entre Paris et Alger ont toujours été tumultueuses depuis l'indépendance de l'Algérie. Est-ce que cette crise est plus grave que les précédentes, selon vous ?
Oui, cette crise était évidemment très grave. Petite précision, je n'ai pas été nommé à la tête de la commission mixte, mais j'ai fait un rapport au président de la République que j'ai remis en 2021. Et c'est ensuite, en 2023, que s'est établie une commission mixte entre historiens français et historiens algériens. Pour en revenir à votre question, il est évident que c'est la crise effectivement la plus profonde, la plus grave que les pays connaissent depuis pratiquement l'indépendance de l'Algérie de 1962. Certes, il y avait eu en 1971, par exemple, une crise importante au moment de la nationalisation des hydrocarbures. Il y a eu aussi, bien sûr, une relation qui s'est profondément dégradée lorsque le président François Mitterrand avait désapprouvé l'interruption du processus électoral en Algérie en 1992. Et puis, plus récemment, il y a eu cette brouille suite à l'adoption par l'Assemblée nationale française du caractère positif de la colonisation en 2005, et ce qui avait provoqué effectivement une brouille très importante. Mais les choses semblaient effectivement aller mieux depuis quelques années, notamment depuis l'ensemble des gestes qui avaient été accomplis par le président de la République sur la question coloniale en particulier. Et puis, brusquement, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, depuis, disons, quelques mois maintenant, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France, ce qui ne s'était jamais produit depuis de très nombreuses années.
Radija Mohsen Finand, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il tout à coup décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, soutenue par Alger ? Il savait, j'imagine, que l'Algérie le prendrait très mal. Qu'est-ce qui a motivé sa décision ?
Oui, il le savait et ça s'est fait tout au long de l'année 2024. Il y a eu un rapprochement et des visites du ministre des Affaires étrangères ces journées. Donc c'était annoncé. Les Algériens s'y attendaient. Mais je crois qu'on a été surpris par la forme. C'est-à-dire que ça s'est fait, comme vous le dites, non pas rapidement mais brutalement, alors que la France entretient avec cette région une histoire de très longue durée et qu'elle est de manière directe ou indirecte impliquée dans cette région. Elle en a dessiné les frontières. Par la suite, elle a soutenu le Maroc dans l'affaire du Sahara occidental. Il y a eu des bombardements en 1977 de camps du Front Polisario en Mauritanie. Simplement, ce qui s'est passé en 2024, je pense que le président a été très travaillé à sa droite. Et on n'oublie pas que Rachida Dati, qui n'était pas encore ministre, et qui était dans le camp des Républicains, et Éric Ciotti se sont rendus au Maroc et ont parlé de la souveraineté du Maroc. Il était un peu encerclé à sa droite, mais aussi à sa gauche, par Mélenchon, qui était sur le point de reconnaître. Et puis, on dit beaucoup qu'il a jugé ce que pouvait lui apporter des liens profond, approfondi avec l'Algérie et avec le Maroc, et il a choisi le Maroc. Et c'est précisément cette approche, si vous voulez, un peu calculatrice, qui a beaucoup choqué les Marocains. Le fait d'avoir choisi le Maroc, d'avoir mis dans la balance les deux grands États du Maghreb pour choisir finalement le Maroc, ça les a beaucoup vexés. Ça a été vraiment un argument très vexatoire.
Emmanuel Alcaraz, en se rangeant aux côtés du Maroc, est-ce que la France bafoue la légalité internationale, puisqu'il faut rappeler que l'ONU a toujours défendu l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, même si celui-ci semble plus que jamais chimérique?
Oui, tout à fait. Sur la position du président, ne respecte pas le droit international, ne respecte pas donc le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc ça pose un problème pour une nation qui se présente comme une puissance d'équilibre, qui défend les droits de l'homme. Donc cette position, elle pose un souci. Alors par quoi est-elle motivée? Peut-être que il y a des intérêts économiques importants français au Maroc, mais il y a aussi la France, elle perd pied en Afrique, sur le continent africain. Et peut-être qu'elle veut utiliser l'intercession marocaine pour être tentée de reprendre pied. C'est une stratégie qui est difficile à gérer, dans le sens où la France, elle a aussi besoin d'Algérie. Par exemple, pour reprendre pied au Sahel, je ne vois pas comment se passer de l'Algérie pour la coopération sécuritaire.
Benjamin Stora, votre avis sur, oui, sur la question, sur ce revirement de la politique française au Maghreb?
Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Khadija. Effectivement, les Républicains étaient proches de la monarchie. C'est-à-dire, elle a cité Éric Ciotti, elle a cité Rachida Dati, c'est vrai, qu'il y a eu effectivement un problème de politique intérieure française, qui a peut-être amené le président de la République à se rapprocher davantage du Maroc par rapport à l'Algérie. Bien sûr, ce choix signifiait une perte de la notion d'équilibre telle que les Français ont toujours voulu avoir entre ces deux grands pays du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie, bien sûr. D'autant que la question aurait pu se mener sur un autre registre, enfin en tout cas celui sur lequel moi je suis, c'était celui de l'unité du Maghreb, de l'unité nord-africaine, de plaider peut-être pour la réconciliation entre ces deux pays dont les frontières sont fermées depuis 1994. Disons que la position française aurait peut-être tout intérêt à essayer de reprendre un rôle politique qui serait celui d'une négociation ou d'une réconciliation possible entre ces deux grands frères ennemis, malheureusement, au détriment des populations d'ailleurs du Maghreb, car entre le Maroc et l'Algérie, de très nombreux liens existent, sur le plan linguistique, sur le plan religieux, sur le plan et aussi historique, c'est évident. L'année prochaine, on va par exemple commémorer le 100e anniversaire de la naissance de l'étoile nord-africaine, en 1926. L'année prochaine, en 2026, on aurait pu espérer, un siècle après, que cette tendance à l'unité nord-africaine aurait pu se réaliser. En tout cas, c'est ce que moi j'avais commencé à écrire et à dire lorsque j'ai commencé à travailler sur cette histoire depuis maintenant pratiquement un demi-siècle. Donc c'est effectivement une situation difficile et qui, malheureusement, retarde la perspective, disons, d'une unité maghrébine qui aurait pu exister.
géopolitique.
Chantal Leroux.
Alors mi-novembre, l'arrestation à l'aéroport d'Alger de Boualem Sansa, l'écrivain franco-algérien, a encore fait monter la tension entre Paris et Alger. L'incarcération de l'écrivain inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État, notamment, a provoqué une vague d'indignation en France. Et le 6 janvier dernier, devant les ambassadeurs réunis à Paris, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots.
L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansa.
En arrêtant un écrivain comme Boualem Sansa, Khadija Mohsen Finan, quel message les autorités algériennes ont-elles voulu faire passer et à qui ?
Je crois qu'elles ont voulu noircir le trait et construire un ennemi qui s'appelle l'Algérie et qui montre que l'Algérie ne respecte pas les droits humains, ne respecte pas les écrivains et ne respecte pas les intellectuels de manière générale. Sauf que ce message au Maghreb, il a été très mal reçu. Il a été très mal reçu parce que Sansa n'est pas le seul prisonnier politique et n'est pas le seul binational à être en prison en Algérie. Et au Maroc, il y en a aussi, et en Tunisie aussi. Et on n'a jamais entendu de tels propos, y compris en 2022, lorsque le président Macron s'est rendu en août en Algérie. Divers accords ont été signés, notamment stratégiques. Lorsque une grande partie du gouvernement s'est rendue en Algérie en octobre avec Elisabeth Borne, qui était Premier ministre. Et donc, aujourd'hui, la question est de savoir pourquoi cet attachement à un écrivain qui, malgré tout, bien sûr, n'a pas sa place en prison, et ça, il faut commencer par le dire, mais qui, malgré tout, a dit des choses qui sont fausses au niveau historique sur le plan du territoire.
Il y a eu des traités. Rappelez-nous les phrases de Boualem Sansa sur le tracé des frontières.
Il a dit globalement à la revue Frontières que une partie de l'Ouest algérien devait revenir au Maroc. Or, le problème, c'est que ça a été un objet de contentieux depuis 1962, qu'il y a même eu une guerre en 1963 et 64 qui s'est appelée la guerre des sables et qui s'est conclue finalement en laissant inchangé le territoire algérien. Donc il y a des traités qui ont été signés et on ne peut pas à la légère remettre en question un territoire. Donc sur le plan historique, il a tort et il est algérien en Algérie et c'est très décevant qu'il soit en prison. Mais je crois que plus il est défendu par les autorités politiques françaises et plus il aura des problèmes aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui.
Benjamin Stora, que risque aujourd'hui Boualem Sansa ?
Ah ça, c'est difficile à dire. On ne peut pas absolument pas savoir. D'abord, on ne connaît pas la date de son procès. L'avocat, Maître Zimré, s'est exprimé cette semaine en expliquant qu'il ne connaissait même pas les attendus de son arrestation, les circonstances, les conditions, les motifs, disons, de cette arrestation. Donc, pour l'instant, on en est encore au stade, disons, où l'avocat français réclame un visa, où la date du procès n'est pas encore connue. Mais encore une fois, je suis d'accord avec ce que vient de dire Khadija sur cette affaire. Il y a d'autres prisonniers, naturellement franco-algériens ou franco-marocains ou franco-tunisiens d'ailleurs, qui existent. Bon, c'est vrai que les propos, disons que Boualem Sansa a pu tenir sur la question des frontières. N'oublions pas que la France est arrivée en Algérie en 1830, il y a donc 200 ans. Ça fait 200 ans que la ville de Tlemcen et d'Oran appartiennent à ce qu'on pourrait appeler l'Algérie d'aujourd'hui. 200 ans. Et évidemment, ça me paraît très difficile, disons, deux siècles plus tard, de continuer, disons, à formuler des revendications territoriales. Ceci dit, naturellement, un écrivain n'a rien à faire en prison et cette discussion à caractère historique doit se mener en toute liberté et dans la liberté de Boualem Sansa.
Emmanuel Alcaraz ?
Oui, ce que je suis d'accord avec ce que dit Benjamin Stora, donc c'est difficile de débattre avec quelqu'un qui est en prison. Et bien sûr, Boualem Sansa doit être libéré pour des raisons humanitaires, c'est un vieux monsieur qui est emprisonné. Mais il est vrai que sa position, à la fois sur un plan historique et aussi sur un plan juridique, bon, est difficilement défendable. Dans le sens où, sur le plan juridique, ça remet en cause l'intangibilité des frontières, qui est quand même une règle juridique au niveau de l'unité africaine. Et si on remettait en cause toutes les frontières sur le continent africain, y aurait des guerres atroces qui se reproduiraient. Donc ce n'est pas possible. Et ensuite, concernant le partage des frontières, en fait, le colonisateur français n'a pas cherché à favoriser l'Algérie au détriment du Maroc. En fait, à l'origine, l'Algérie, si vous voulez, quand il fait la conquête de l'Algérie, se met en place une colonie de peuplement. Donc la colonisation, après la conquête du Sahara, qui se termine en 1934, elle a pour but, si vous voulez, c'est une colonisation militaire, qui a pour but de protéger cette colonie du peuplement. Et de finalement, c'est fait par rapport aux intérêts de la colonisation, aux intérêts de l'empire colonial, pour relier les possessions françaises en Afrique de l'Ouest, au Sahel, avec celles de l'Afrique du Nord. Et à l'indépendance, effectivement, sur un plan, c'est la position notamment de l'Algérie, la position, les Algériens, ces frontières ont été reconnues, il y a eu des conventions internationales qui ont été signées, ça a été ratifié un peu tardivement par le Maroc au début des années 90, mais il faut faire attention, ces frontières, en fait, c'est le colonisateur qui a en fait exporté sa conception linéaire de la frontière. Parce qu'avant la colonisation, en fait, c'était des frontières qui étaient fluctuantes. Il y avait des allégeances, des tribus, soit à l'égard du sultan du Maroc, soit à l'égard de la régence d'Alger, qui ça se recomposait sans cesse. Et c'est le colonisateur qui, pour ses intérêts, pas pour favoriser une nation algérienne ou une nation marocaine, qui a fixé cette frontière entre cette colonie de peuplement algérienne et le protectorat marocain.
Le mois dernier, les relations entre Paris et Alger ont connu un nouveau pic de tension après l'attentat de Mulhouse. Un attentat imputé à un Algérien de 37 ans, en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il a été accusé d'avoir tué une personne à l'arme blanche et d'avoir blessé plusieurs policiers. Selon le Premier ministre François Bayrou, avant le drame, l'Algérie avait refusé à 10 reprises le retour de son ressortissant que la France voulait expulser depuis 2023. Khadija Mohsen Finan, pourquoi l'Algérie renacle-t-elle à reprendre ses ressortissants et conduit par la France? Est-ce qu'elle agit de la même façon avec tous les pays étrangers qui ne veulent plus un jour ou l'autre sur leur territoire de certains ressortissants algériens?
Oui, ça ce n'est pas une spécificité algérienne. Les Marocains font la même chose, les Tunisiens font la même chose. Alors chaque fois, ils donnent une explication à leur refus, soit ce n'est pas tout à fait légal, ce n'est pas exactement ce qu'on a signé, soit quand il s'agit d'islamistes, ils se sont islamisés sur le territoire français ou autre chose. Mais même si ces faits sont vrais, ce qui gêne aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est de faire le lien entre finalement cet attentat et les relations entre la France et l'Algérie. Ça ne se réduit pas aux OQTF, ça ne se peut pas se réduire à des questions d'insécurité, des questions de violence, des questions d'immigration. Et c'est ce lien qui a été fait par le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui vient nourrir la crise, qui vient nourrir un peu plus la crise. Parce que finalement, s'il y a un problème à régler avec cette personne qui a agi à Mulhouse ou ailleurs, il faut les régler sur le territoire français. Si elles doivent être conduites, elles le sont. Si elles sont refusées, est-ce que c'est bon d'en faire un sujet d'actualité? Donc, c'est tout cela, si vous voulez, qui vient non seulement envenimer les choses au niveau de la crise, mais aussi empoisonner la vie de milliers et de millions d'Algériens qui forment la communauté algérienne en France. Et ça, ce sont des retombées sur le court terme et sur le long terme, dont on ne peut pas apprécier aujourd'hui les retombées. C'est vraiment une manière de fractionner la société qui peut être extrêmement dangereuse pour la France.
On va revenir dans la seconde partie de cette émission sur les mesures de rétorsion annoncées par le Premier ministre François Bayrou suite à cette affaire de l'attentat de Mulhouse. Khadija Mohsen Finan, Benjamin Stora, Emmanuel Alcaraz, on fait une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes. Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. En juillet dernier, la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental provoquait la fureur de l'Algérie, fidèle soutien des indépendantistes du Front Polisario. Depuis, les relations entre Paris et Alger n'ont cessé de se dégrader à coups de passes d'armes verbales, d'ultimatums et de menaces. Jusqu'où peut aller cette crise diplomatique sans précédent entre les deux pays depuis l'indépendance de l'Algérie ? On continue d'en débattre avec trois spécialistes de l'Algérie, Khadija Mohsen Finan, Benjamin Stora et Emmanuel Alcaraz.
J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview, et je l'ai fait partout où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
La colonisation est un crime contre l'humanité en 2017. Cette petite phrase, lors d'une interview à la télévision algérienne d'Emmanuel Macron, avait satisfait l'Algérie, mais suscité une polémique en France. Celui qui n'était alors que candidat à la présidence voulait construire, je le cite, un futur apaisé avec l'Algérie. 8 ans après, on en est très loin. Benjamin Stora, le travail mémoriel entre la France et l'Algérie que vous avez entrepris à la demande d'Emmanuel Macron, est-il définitivement bloqué ou peut-il être relancé?
J'espère qu'il pourra être relancé, bien entendu, parce qu'il avait démarré. C'est un travail à la fois de mémoire, mais aussi d'histoire, parce que les préconisations que j'avais proposées étaient en fait portant sur l'histoire, et donc d'inscrire sur le plan politique la reconnaissance par la France d'un certain nombre d'exactions, notamment qui avaient été commises pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire l'assassinat de Maurice Oda, de Ali Boumendjel, de Larbi Ben Midi, également la préconisation d'ouverture des archives, c'est-à-dire pour faciliter l'accès aux sources pour les chercheurs. Et puis, il y a eu cette commission mixte d'historiens, de 5 historiens français et 5 historiens algériens, qui s'est réunie 5 fois en 2023 et 2024, donc quelques semaines encore avant la déclaration d'Emmanuel Macron à Rabat. Ce travail avait d'ailleurs commencé sur une période très particulière, c'était celle du 19e siècle, une période qui est revenue sur le devant de l'actualité, comme vous le savez, avec les déclarations de Jean-Michel Apathy. On avait décidé donc de travailler sur le 19e siècle, c'est-à-dire de rassembler le maximum de sources de documentation et d'archives autour de la pénétration coloniale française tout au long du 19e siècle, qui a été effectivement une conquête sanglante, bien sûr, avec beaucoup de massacres, l'arrivée d'une colonie de peuplement, comme l'a rappelé fort justement Emmanuel Alcaraz dans les précédentes interventions. Donc ce travail, dans le fond, je crois qu'il ne peut pas s'interrompre, parce que les jeunes générations, que ce soit en Algérie ou en France, ont éprouver de toute façon la nécessité de savoir, de comprendre. Il y a énormément de chercheurs aujourd'hui, en France et en Algérie, qui veulent savoir ce qui s'est passé pendant la période coloniale, comme ça a été le cas d'ailleurs sur la question plus ancienne de l'esclavage. Donc je vois mal, disons, qu'on puisse interrompre le processus de travail sur les questions touchant à la colonisation et à l'esclavage, et de toute manière, indépendamment des circonstances étatiques, eh bien, il y a quand même ce lien personnel qui existe entre les historiens, entre les deux rives de la Méditerranée. Moi, personnellement, je n'ai jamais perdu le contact, personnellement, avec les historiens algériens avec lesquels j'ai travaillé ces 2 dernières années.
Mais quel geste concret la France pourrait-elle faire, donc la France ancienne puissance coloniale, pourrait-elle faire pour espérer des relations apaisées avec l'Algérie?
Très franchement, je ne sais pas exactement quel type de geste mémoriel. La question, encore une fois,
beaucoup de la restitution des biens pillés pendant la colonisation.
Alors, il y a effectivement eu une demande qui avait été adressée par notamment les historiens algériens autour de la grande figure de l'émir Abdelkader. Il y avait cette demande de restitution des livres qui avaient été pris, qui étaient en possession de l'émir,
de son Coran annoté personnel. Par lui-même.
Absolument, bien sûr. Et cette revendication s'est heurtée à une chose très simple, c'est une loi de restitution qui pourrait ou qui devrait être voté par l'Assemblée nationale française, mais qui n'a encore pas été le cas pour l'instant. Donc on se heurte à cette question de la restitution par une loi qui ne voit toujours pas le jour.
Mais
donc,
la France, mais Benjamin Stora, la France a restitué au Bénin, par exemple, des objets pillés lors de l'époque coloniale. Donc pourquoi est-ce si compliqué de le faire avec l'Algérie, même si cette fameuse loi sur la restitution des biens n'a pas encore été votée?
Bah, il y a eu effectivement des restitutions, je crois aussi, y compris au Sénégal, si mes souvenirs
Absolument.
Sont bons, hein, de ce qu'avait fait Édouard Philippe, sur le Bénin, bien entendu, vous venez de le signaler. Sur l'Algérie, pour l'instant, les demandes n'ont pas abouti de restitution. Vous savez, l'Algérie a été considérée pendant très longtemps comme appartenant à la France. Ce sont des départements français. Donc la question des biens inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas céder parce qu'appartenant à la France. Alors que les autres colonies étaient, entre guillemets, des colonies, gérées par le ministère des colonies. L'Algérie était gérée par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que c'était des départements français. Donc les biens, alors là, derrière la catégorie biens, on peut mettre beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire bon, des objets, des livres, des lieux, des statues, etc., appartiennent théoriquement, en fonction de la loi française, à la France, puisque l'Algérie était française. Donc ça, on se heurte à cette question toute singulière concernant les rapports entre la France et l'Algérie.
Vous avez cité tout à l'heure, Benjamin Stora, le nom du journaliste Jean-Michel Apathy.
Oui.
Jean-Michel Apathy a comparé sur RTL, c'était le 25 février, les crimes coloniaux de l'armée française en Algérie au massacre d'Oradour-sur-Glane commis par les nazis en 1944. La direction de RTL l'a suspendu d'antenne. Lui a préféré quitter RTL, refusant ce qu'il considère comme une punition. Est-ce que la comparaison faite par Jean-Michel Apathy était justifiée selon vous ?
Alors, il y a toujours une difficulté, comme je l'ai déjà mentionné dans différents entretiens, toujours la difficulté pour les historiens du risque de l'anachronisme historique, puisqu'il s'agit là d'un décalage de temporalité de près d'un siècle. Donc, c'est très difficile de comparer, par exemple, ce qu'a été la mission civilisatrice de la France, entre guillemets, dans l'entreprise coloniale, avec la barbarie nazie. Donc, la bonne conscience française à l'égard de l'entreprise coloniale est restée longtemps entière, et le voile commence seulement maintenant à se lever. Mais il y a dans l'entreprise coloniale, comme le rappelait Hannah Arendt et aussi la philosophe Simone Weil, il y a aussi le moment d'une sorte d'établissement d'un laboratoire sur la brutalisation des sociétés, la racialisation, la hiérarchisation raciale, entre guillemets, de ces sociétés. Donc l'entreprise coloniale, bien sûr, a permis à un moment donné d'ouvrir la voie à ce qu'on a connu dans les totalitarismes du XXe siècle, comme a fort bien décrit la chose Hannah Arendt. Donc, au total, je dirais quand même que l'immense mérite de cette polémique, c'est de porter à la connaissance du grand public français ce qu'a été la conquête coloniale. Car on a beaucoup parlé récemment, ces dernières années, de la guerre d'Algérie, bien sûr, en France, mais on a pratiquement très peu parlé dans les manuels scolaires, dans les films de fiction, dans les documentaires, de ce qu'a été la conquête coloniale qui a duré très longtemps, presque plus d'un demi-siècle de conquête et de massacre. Et ça, les Français, grâce à ce type de discussion, découvrent, disons, l'ampleur des rapports qui se sont établis entre Français et Algériens, des rapports conflictuels, difficiles, passionnels et douloureux.
Khadija Mohsen Finan, une autre affaire suscite la polémique depuis quelques jours. Un documentaire de 52 minutes, Algérie section armes spéciales, qui révèle comment l'armée française a utilisé à grande échelle des armes chimiques pendant la guerre d'Algérie, a été déprogrammé cette semaine par France Télévisions. Il aurait dû être diffusé ce dimanche 16 mars sur France 5. Il sera programmé ultérieurement, mais on ne sait pas à quelle date. Il est quand même accessible depuis mercredi en ligne sur la plateforme de France Télévisions. France Télévisions qui justifie la déprogrammation par un choix lié à l'actualité. Mais en pleine crise entre Paris et Alger, c'est difficile de ne pas s'interroger. Un documentaire qui révèle que l'armée française a gazé des populations sans défense dans les zones montagneuses de l'Algérie de 1954 à 1959, ça dérange encore en France en 2025 ?
Oui, ça dérange et on l'a bien vu avec l'affaire de Michel Apathy. Et je crois que on est encore dans la volonté de cacher ce qui s'est passé en Algérie par la France. Il y a eu des exactions, il y a eu des tortures, on l'a su. Il y a eu des aveux de la part des principaux concernés. On a vu que c'était le système et donc l'État qui était en cause. Mais je crois que toute cette crise n'a pas conduit, en tout cas les médias, à vouloir, au contraire, faire connaître la réalité. Et je crois qu'il appartient à tous, que ce soit par le biais de l'enseignement, que ce soit par le biais des médias, à mieux faire connaître cette période. Benjamin Stora vient de le dire. Mais je crois qu'il y a une peur de ne pas savoir contrôler les débats, une peur de ne pas savoir tout court de la part de certains journalistes. Et là, si vous voulez, il y a des faits à faire connaître. On n'est pas du tout dans les opinions, on n'est pas du tout. Et le débat, à mon avis, il est tout à fait nécessaire. Il est tout à fait nécessaire, mais à partir d'une connaissance. Alors moi, je pense que la déprogrammation, dans ce cas précis, dans ce contexte précis, s'apparente à de la censure, il faut bien le dire. Il n'y a pas eu de date pour sa programmation. Donc ça change
mais
tout.
Mais on peut le voir en ligne.
Le voir en ligne, ça déplace les choses.
Emmanuel Alcaraz, tant que la France aura du mal à assumer son passé colonial, la relation avec l'Algérie ne sera jamais apaisée ?
Oui, en fait, ce que demandaient les Algériens, c'était une reconnaissance globale des crimes commis pendant l'époque coloniale. Alors Emmanuel Macron, vous avez diffusé le passage où, lorsqu'il est candidat en 2017, il déclare, on a l'impression que c'est quasiment un anticolonialiste d'extrême gauche, qui dit en fait que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y a, sur le plan de la politique intérieure, il y a une droitisation du champ politique. Et en fait, M. Macron, peut-être, alors c'est vrai qu'il a lancé avec Benjamin Stora ce travail mémoriel, où il y a des gestes qui sont très importants et qui resteront. Mais en fait, il n'a peut-être pas voulu se retrouver, Emmanuel Macron, on peut émettre l'hypothèse, pourquoi est-ce qu'il change ? Parce qu'avant, le problème de la reconnaissance du Sahara occidental, il avait violemment critiqué le régime algérien en disant que la mémoire était une rente symbolique pour le régime algérien. Il avait même remis en cause l'existence de la nation algérienne. C'est ça qui a un peu décontenancé les Algériens. Donc il a voulu incarner un peu une voix paradoxale entre la gauche anticoloniale et l'extrême droite, mais il s'est droitisé au fur et à mesure. Et le débat qui est devenu central dans le champ politique français, c'est celui qui oppose les libéraux aux hyper-nationalistes, parce que l'extrême droite, ce sont les hyper-nationalistes. Emmanuel Macron, en fait, il a voulu en fait faire plaisir un peu à tout le monde et à tous les groupes de mémoire qui étaient présents. Et de ce fait, quand on veut faire plaisir à tout le monde, des fois, ça ne marche pas très bien.
Khadija Mohsen Finan, côté algérien, existe-t-il des enjeux politiques internes qui expliquent la posture de fermeté d'Alger vis-à-vis de Paris ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, et là aussi, on est dans les usages politiques de cette question. Abdelmadjid Tebboune est élu. Il n'a pas de vraie légitimité parce qu'il arrive après un mouvement de protestation très important qui a été étouffé, qui est le Hirak en 2019. Donc, il a besoin d'asseoir sa légitimité. Il y a aussi des courants nationalistes très importants au sein de la classe politique algérienne. Il y a des tiraillements. Et il y a une volonté, comme à chaque fois, de se positionner vis-à-vis de la France pour montrer qu'on est en position de force. Par ailleurs, sur le plan régional, et ça c'est important aussi, l'Algérie est en position de faiblesse aujourd'hui. Elle a perdu son ascendant ou son influence sur les pays du Sahel au profit du Maroc justement. Elle craint beaucoup cet axe Tel Aviv-Rabat sur le plan stratégique suite à la normalisation de la relation entre le Maroc et Israël. Et elle est en position de faiblesse au niveau africain, au niveau interne, au niveau régional. Et elle a aussi un conflit aujourd'hui avec la France. Donc, ça la rend encore plus fébrile pour avoir recours justement à ce nationalisme qui est un ancien levier qu'elle fait activer très régulièrement.
Est-ce que la coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie est menacée par ce climat de tension qu'on...
Moi, je pense que cet aspect-là qui est rompu en dernier. Quand il y a une crise, cette coopération sécuritaire, elle demeure ne serait-ce que parce qu'elle s'inscrit aussi dans la rivalité entre l'Algérie et le Maroc, et on l'a bien vu avec l'affaire de Mohamed Amra, la France a bénéficié du renseignement marocain, donc ça incite les Algériens à continuer cette sécurité, et je précise que cet axe a été renforcé en août 2022, à Zralda, côté d'Alger.
Est-ce que l'Algérie va chercher à renforcer ses liens avec d'autres puissances en réponse aux tensions avec Paris, les États-Unis par exemple ?
Oui, c'est fort possible et le président Tebboune l'a dit dans une interview donnée au journal français L'Opinion. Il a dit que rien n'empêchait l'Algérie de passer des accords avec les États-Unis et qu'il fallait diversifier les partenariats. Il est même allé beaucoup plus loin et il a dit que si le problème israélo-palestinien était résolu, il pourrait tout à fait avoir des liens avec Israël.
La France menace l'Algérie de restrictions de visa. Khadija Mohsen-Finan, l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin affirme que le bras de fer ne fonctionne pas avec un pays comme l'Algérie. Il a raison ?
Absolument. Il ne fonctionne pas de manière générale. Il vaut mieux laisser la place à la diplomatie, mais avec l'Algérie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, d'autant plus, comme ça vient d'être expliqué, les accords de 68 ne changeront pas grand-chose. Ils ont été révisés à 3 reprises. Les Algériens ont besoin de visas pour venir en France. La question des OQTF sera réglée différemment, mais on ne donne pas 4 ou 6 semaines à l'Algérie pour terminer une mission ou mettre un terme à une crise. C'est vraiment très mal vu de la part du Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce n'appartient pas à son champ de compétences. Et le chef de l'État l'a bien dit, alors qu'il était en déplacement au Portugal, il a dit que c'était à lui. Alors il réagit un peu tard et c'est très dommage, mais il réagit en disant que c'est à lui de réviser les traités qui ont été signés entre 2 États.
Mais comment Emmanuel Macron va-t-il gérer cette crise avec l'Algérie tout en maintenant une relation équilibrée avec le Maroc maintenant ?
Alors ça, ce serait un idéal. Et d'ailleurs, ça aurait dû se faire depuis très longtemps. La France n'est pas obligée de faire du tout Algérie ou du tout Maroc comme ça s'est fait aujourd'hui et d'être dans la défensive à chaque fois. Elle peut construire justement une diplomatie qui s'adresse à son flanc sud, aux pays qui ont été colonisés par elle. Et aujourd'hui, on ne voit pas véritablement d'échafaudage de cette diplomatie. Et on est obligé ou on s'attend à des vexations de la part de l'Algérie quand il y a effectivement de bons rapports avec le Maroc. Mais sur la question du Sahara occidental, la France a franchi un pas et elle ne s'est pas mise seulement en difficulté avec l'Algérie, mais au niveau du droit international, parce qu'il n'appartient pas à un pays de reconnaître la souveraineté sur un territoire. Le dossier est confié aux Nations Unies depuis 1991.
Dernière question en 2 mots, un retour au dialogue est-il envisageable à court terme entre Paris et Alger ?
Oui, on l'a déjà vu. Il y a eu des crises qui ont été énumérées tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois ou un an, la France était en crise avec le Maroc. Et puis tout va très bien aujourd'hui, tout est oublié, donc on n'a pas beaucoup de mémoire au niveau des crises, c'est peut-être tant mieux.
Merci à tous les 3 d'avoir été nos invités, Khadija Mohsen-Finan, politologue spécialiste du Maghreb et du monde arabe, chercheur associé au laboratoire CIRIS à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit avec Pierre Vermeren, dissident du Maghreb. Benjamin Stora, historien, vous avez publié en 2024 avec Nicolas Le Scanf, une bande dessinée, Les Algériens en France, une histoire de génération, parue aux éditions La Découverte. Et Emmanuel Alcaraz, chercheur à Mésopolis, Sciences Po Aix. Vous avez co-dirigé L'Afrique du Nord en mouvement entre mobilisation populaire et restauration autoritaire, ouvrage à paraître aux éditions du Croquant. Merci à Mathias Golshani qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo qui l'a coordonnée. Bonne semaine, à samedi prochain.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique.